Merci beaucoup. Et merci Benoît, merci Claudine et à toute l'équipe qui a organisé ce très bon colloque. Alors, la question c'est qu'est-ce que le raisonnement ? Donc, pour donner une idée de comment je comprends cette question, je commence avec deux exemples. Donc, imaginez que vous dites à vous-même le suivant qui est sur le handout. Si Jeanne a pris une bière, il n'en reste plus. Jeanne a pris une bière, donc il n'en reste plus. Il n'en reste plus de bière. Et donc, comme je l'imagine, de cette manière, vous commencez avec deux choses que vous croyez, deux propositions que vous croyez, et vous faites une sorte de transition par laquelle vous acquérez une nouvelle croyance, la croyance qui a comme contenu la conclusion de cette pièce de raisonnement. Deuxième exemple, je vais chercher de la bière. Pour aller chercher de la bière, il faut aller au magasin, donc je vais au magasin. Donc, dans cet exemple, vous faites à nouveau une transition mentale. Vous commencez avec une intention d'aller chercher de la bière et une croyance selon laquelle pour aller chercher de la bière, il faut aller au magasin. Et vous faites une transition et de cette manière, vous acquérez une intention d'aller au magasin. Et cette intention est entretenue sur la base de l'intention avec laquelle vous avez commencé et la croyance au sujet des moyens pour l'accomplir. Donc, il semble que le raisonnement est une sorte de transition mentale entre attitude par laquelle un sujet révise ses attitudes. Et quand je parle d'attitude, ici je vais parler que de croyances et d'intention. Donc, ces deux types d'attitudes. Il y a peut-être d'autres attitudes avec lesquelles on peut faire des raisonnements, mais je vais parler essentiellement des croyances et des intentions. Mais ce n'est pas le cas que toutes les transitions mentales qui produisent des changements d'attitude comptent comme des raisonnements. Donc une transition pourrait arriver à cause d'un coup sur la tête, par exemple, dans un autre processus non rationnel. Donc la question que je pose, c'est de quelle sorte de transition s'agit-il quand le raisonnement a lieu? J'ai quelques clarifications à faire sur la manière dont je comprends cette question. Donc, première clarification, le raisonnement, je considère comme une activité consciente. Donc, je pense à une activité consciente que vous faites et qui a lieu au niveau personnel. Donc, c'est ça, ce n'est pas des opérations automatiques qui se passent ou des opérations subpersonnelles, par exemple, les calculs que fait le système de compréhension de langage quand vous comprenez ce que je dis, par exemple. Donc, le raisonnement, c'est vous qui le faites et vous le faites. C'est une activité. D'ailleurs, ce qui m'intéresse ici, c'est l'activité psychologique. C'est l'événement qui se passe quand vous faites un raisonnement. Ce n'est pas les contenus du raisonnement. Donc, les exemples avec lesquels j'ai commencé, ce que j'ai mis sur la handout, c'est une sorte de représentation de certains contenus, mais en fait ce qui m'intéresse c'est ce que vous faites quand vous faites le raisonnement avec ces contenus. Deuxième, je ne suppose pas que le raisonnement implique forcément la parole ni le langage. Il peut, c'est sûr, donc clairement vous pouvez faire un raisonnement par le biais de dire certains mots et faire une transition de cette façon-là. Mais je ne présuppose pas que ce doit être forcément comme ça. Pourtant, c'est beaucoup plus facile à représenter des épisodes de raisonnement par le langage, par les mots que vous diriez si vous exprimiez ce raisonnement. Donc, je vais faire comme ça, mais je ne veux pas présupposer que ça doit être comme ça. Et troisième clarification, le raisonnement ne mène pas forcément à l'acquisition d'une attitude. Il peut se conclure par le maintien, l'abandon ou le non-acquisition d'une attitude. Donc, vous pourrez vous poser la question si P est des raisons suffisantes pour croire que P ni pour croire que non P, et donc à la fin vous formez aucune attitude, ça peut arriver. Mais encore une fois, pour simplifier, je parle pour la plupart de l'acquisition des attitudes par le raisonnement. Donc ça c'est la section 1. Donc je passe à la deuxième section. Le raisonnement, il semble, a une portée normative. Donc, par le raisonnement, un sujet peut accueillir des attitudes justifiées ou des attitudes fondées sur de bonnes raisons, ou des choses comme ça. Donc, des attitudes avec certaines propriétés normatives. Donc, on pourrait penser que c'est ça qui fait qu'une transition de données compte comme un raisonnement. C'est cette portée normative. Mais ça ne peut pas être aussi simple que ça, parce qu'une attitude pourrait entraîner une autre que dans l'occurrence, elle soutient, sans que le sujet fasse du raisonnement. Encore une fois, le coup sur la tête, ça pourrait me faire acquérir une attitude qui, dans l'occurrence, est soutenue par les attitudes que j'entretenais juste avant. Mais peut-être... Voici une suggestion. Peut-être dans le raisonnement, un sujet forme une attitude parce qu'elle est soutenue par d'autres attitudes qu'il a. Et en fait, Rafe Wedgwood, dans un article de 2006, il a soutenu une théorie de cette sorte. Donc, lui, il dit que raisonner, c'est répondre directement à ce qu'il appelle une rationalisation, pour réviser ses attitudes. En fait, ce qu'il dit est un peu plus compliqué que ça, mais ça, c'est pas important aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par rationalisation? Disons qu'il veut dire une raison, et ça simplifie un peu comme ça. Donc, je vais considérer ce qu'il dit de la façon suivante. Le raisonnement consiste en le fait de répondre à des raisons en révisant ses attitudes. Il y a un problème très évident pour cette théorie, c'est qu'il est possible de raisonner sans répondre à des raisons. Donc on peut faire des raisonnements fallacieux, malheureusement. Et quand on fait des raisonnements fallacieux, on ne va pas, d'habitude, on ne va pas être en train de répondre à des vraies raisons. Wedgwood, bien sûr, il est conscient de ça. Il dit que, strictement, sa théorie parle du bon raisonnement et pas du raisonnement tout court. Mais il dit que la nature du raisonnement fallacieux est à expliquer par ou dérive de la nature du bon raisonnement. Et donc, c'est pour ça qu'il commence avec le bon raisonnement et il pense qu'on va comprendre le raisonnement en tant que tel, tu vois, après. Mais malheureusement, il ne nous dit pas comment ça marche. Pourtant, il y a des possibilités qui se suggèrent. Donc, voici une idée. Peut-être, quand un sujet raisonne mal, il répond non pas à des raisons, mais à ce qu'il considère comme des raisons. Et si on prend cette idée, on arrive à la théorie que j'ai mise sur la handout, qui a été soutenu, quelque chose comme ça a été soutenu par Paul Grice en 2001. Et selon cette théorie, raisonner, c'est répondre en révisant ses attitudes à ce que l'on considère comme une raison. Voilà. Et ça, c'est intéressant, c'est pas évidemment faux, c'est clair qu'il y a des connexions entre le raisonnement et les raisons. Donc c'est intéressant comme idée, mais je pense qu'il y a des problèmes. Donc, premier problème, en fait, ce que dit cette théorie, c'est que le raisonnement est une manière de fonder une attitude sur une autre. Donc, c'est une espèce de ce qui s'appelle pacing dans la littérature en anglais. Et ça, ça aussi, c'est une idée plausible. C'est sûr qu'il y a des connexions étroites entre ces deux choses. C'est clair que quand vous acquérez une attitude par un raisonnement, cette attitude est fondée sur les attitudes avec lesquelles vous avez commencé ce raisonnement. Donc ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que ça ne nous avance pas beaucoup parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que de fonder une attitude sur une autre. Et non seulement nous n'avons pas une théorie satisfaisante de ce phénomène de basing, de fondement, mais des questions analogues à celles qui se posent pour le raisonnement se posent également à l'égard du phénomène de fonder une attitude sur une autre. Notamment, il y a la question de savoir quelle est la différence entre un cas où une attitude est fondée sur une autre attitude et un cas où il y a seulement une connexion causale entre ces deux attitudes. Et ça, c'est une question analogue à celle avec laquelle j'ai commencé pour introduire ma question sur le raisonnement. Donc ça ne nous avance pas beaucoup. Deuxième problème, contrairement à ce que suppose cette théorie, à mon avis, il n'est pas nécessaire pour raisonner que le sujet entretienne non seulement les attitudes qui donnent les prémices du raisonnement, les attitudes de début, si vous voulez, mais aussi une attitude de plus, soit la croyance que ces prémices constituent des raisons. Donc vous avez les attitudes de début, une transition vers une autre attitude, et selon cette théorie ici, encore une autre attitude qui dit que là, vous avez des raisons pour cette attitude avec laquelle vous avez conclu ce raisonnement. Je ne vais pas aller dans les détails des problèmes qui se produisent pour cette idée, mais en gros, c'est assez bien connu, il y a des problèmes de circularité et de régression pour une théorie de raisonnement qui a cette condition requise d'avoir cette attitude qui parle de raison. On peut en revenir dans l'appareil de discussion si vous voulez. Pour ne pas avoir à faire face à ces problèmes, on pourrait interpréter l'expression « considérer comme une raison » autrement. On pourrait considérer que ça veut dire juste « traiter comme une raison ». Mais qu'est-ce que c'est que de traiter une considération comme une raison si ce n'est pas de se servir de cette considération comme une prémisse d'un raisonnement ? Donc, si on interprète l'expression comme ça, on tombe dans la circularité à nouveau. Voilà, donc ça c'est les deux problèmes que je vois avec la première théorie. Donc je passe à la section 3. Bon, on peut raisonner mal, mais on ne peut pas simplement raisonner comme on veut. Il y a des limites. Et ça rend plausible de penser que quand un sujet fait du raisonnement, il suit des règles. Et ça c'est l'idée dont je vais parler dans cette section. Par exemple, un sujet pourrait suivre des règles comme celle que j'ai mise sur le handout. Donc il y a la règle modus ponens qui dit si vous avez la croyance que P en proposition et la croyance que si P alors Q, vous pouvez passer à la croyance que Q. Ou bien la règle moyen, si vous avez l'intention de faire quelque chose et la croyance que pour faire cette chose il faut faire quelque chose d'autre, alors vous pouvez passer à l'intention de faire cette deuxième chose. Et quand on imagine les exemples avec lesquels j'ai commencé, on pourrait imaginer que le sujet suit ces deux règles-là en faisant son raisonnement. Donc l'idée, ce serait que quand un sujet raisonne mal, il suit toujours des règles, mais pas les bonnes règles. Donc il suit des mauvaises règles. Un bon raisonnement serait alors un raisonnement qui suit les bonnes règles de raisonnement. Et John Broome, dans son livre récent qui s'appelle Rationality Through Reasoning, qui est un très très bon livre, il soutient une théorie de de cette sorte. Lui, il dit que raisonner, c'est effectuer une opération sur ses attitudes en suivant une règle. Par exemple, un sujet pourrait effectuer une opération sur sa croyance que si j'en ai pris une bière, alors il n'en reste plus, et sa croyance que j'en ai pris une bière en suivant la règle modus ponens pour ce qu'il appelle construire la conclusion qu'il ne reste plus de bière, c'est-à-dire plus ou moins pour acquérir la croyance avec le contenu qu'il ne reste plus de bière. Donc il y a beaucoup de choses à expliquer dans cette théorie et je vais pas tout expliquer bien sûr, mais je vais juste parler de deux points importants, parce que a priori il y a dangers de circularité à deux égards en fait pour cette théorie. Donc première chose, le fait de suivre une règle, donc il y a des gens qui pensent que ça présuppose le raisonnement. Donc on peut penser que pour suivre une règle, il faut avoir l'intention de faire ce qui serait conforme à la règle, et la croyance que X serait conforme à la règle, et de passer par un raisonnement jusqu'à l'intention de X. Donc on ne peut pas penser au fait de suivre une règle de cette façon-là, parce que ce serait ça mènerait à la circularité. Broom, bien sûr, il est conscient, et donc lui, il soutient un modèle dispositionnel du fait de suivre une règle. Donc il pense que suivre une règle, c'est manifester une certaine disposition de faire ce qui est conforme à la règle. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Mais le point important pour ici, c'est juste qu'on ne peut pas présupposer que quand un sujet suit une règle, ça implique le fait de faire un raisonnement. Deuxième, il n'est pas très clair qu'est-ce que c'est qu'une opération dont parle Broom dans sa théorie. Donc, par ça, on pourrait entendre un raisonnement, mais bien sûr, il ne faut pas l'entendre comme ça. Donc, une opération ne peut pas être en elle-même un raisonnement. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être que c'est une sorte de processus causal par lequel certaines attitudes causent ou entraînent la formation d'une autre attitude, l'attitude qui conclut le raisonnement. Et qu'elles font ça en vertu de leur contenu et des types d'attitudes qu'elles sont. Donc je pense que si on interprète ces deux éléments d'une certaine manière, la théorie n'est pas circulaire, mais il faut être bien conscient en évaluant la théorie que le fait d'effectuer une opération sur ses attitudes en suivant une règle, que ça consiste plus ou moins en le fait de manifester une disposition où certaines attitudes en causent la formation de certaines autres. Donc c'est comme ça qu'il faut entendre l'expression effectuer une opération, etc. Mais dans ce cas, il me semble que la condition que propose Broom n'est pas suffisante pour le raisonnement. Donc j'ai mis quelques règles sur la handout R1, 2, 3 et 4. Il me semble que vous pourriez suivre ces règles-là sans faire du raisonnement. Donc R1, ça vous dit de passer la pensée que P, donc une proposition qui arrive un peu dans votre tête, vous pouvez passer à ça, à la croyance que P. Donc ça vous dit plus ou moins de croire ce que vous voulez, quoi, ce auquel vous pensez. La règle R2, ça vous dit de passer à n'importe quelle croyance jusqu'à l'intention de tuer tout le monde. Ça, c'est pas bon. La troisième, ça vous dit que dès que vous avez une attitude envers la proposition qu'une araignée est présente, vous pouvez abandonner cette attitude tout de suite. Donc j'imagine que vous êtes arachnophobe et même la pensée d'une araignée, ça vous fait de la peine, et donc vous suivez cette règle pour ne pas avoir à penser aux araignées. Il me semble que si vous faites ça, ça c'est pas du raisonnement. La règle R4, en fait, Broom en parle dans son livre parce qu'il considère une objection un peu comme celle que je pose juste là. Et R4, ça vous dit que si vous avez la croyance qu'il pleut et la croyance que s'il pleut, la neige fondra, vous pouvez passer à la croyance que vous entendez les trompettes. Et il dit, Broom, que... en fait, un sujet ne pourrait pas suivre cette règle sans raisonner. Il dit que, bon, si on réfléchit sur ce que c'est vraiment de suivre une règle, on va voir que, en fait, ça suffit. Suivre une règle comme ça, ça suffit pour raisonner. Et je peux juste dire que je ne suis pas d'accord. Il me semble qu'il n'a pas raison. Je ne veux pas dire qu'un sujet ne pourrait pas suivre R4 dans un raisonnement. Ça, c'est important. C'est pas que c'est impossible de faire un raisonnement en suivant cette règle-là. Si vous avez des idées un peu bizarres sur des trompettes, peut-être vous pourriez faire ça. Ce que je dis, c'est que ça ne suffit pas. Par exemple, en principe, un sujet pourrait suivre R4 tout en sachant que la pluie n'a rien à voir avec le fait d'entendre des trompettes, par exemple. Et donc c'est difficile de voir comment ça pourrait compter comme un raisonnement. En tout cas, il me semble que le point est très clair pour les règles R1, 2 et 4. Donc, pour résumer, l'objection que j'ai contre Broom, c'est assez simple, c'est que le fait de faire une transition entre attitudes en suivant une règle, il me semble que ça ne suffit pas pour le raisonnement. Et voilà, ça c'est la section 3. Il faut que j'aille plus vite. Donc dans la section 4, j'introduis rapidement la théorie que je préfère. Donc moi je suis d'accord avec Broom que le raisonnement implique le fait de suivre une règle. Excusez-moi. Mais en même temps je trouve que ça ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il est tentant de répondre que ce qu'il faut d'autre, c'est que les règles doivent être les bonnes. Donc une chose qu'on voit très vite avec R, 1, 2, 3 et 4, c'est qu'elles sont des règles très mauvaises pour le raisonnement. Mais on a déjà vu que ce ne peut pas être une condition de raisonnement que les règles, que le sujet suit soient les bonnes règles, parce que c'est possible de faire un raisonnement fallacieux. Mais je pense néanmoins que Wedgwood, il a eu raison sur le fait qu'on peut faire du progrès dans l'investigation du raisonnement en tant que tel en réfléchissant en premier lieu au bon raisonnement. Donc je pense qu'il y a quelque chose là sur lequel il avait raison. Donc, fait banal mais à mon avis très important, on peut raisonner bien ou mal. Donc il y a le bon raisonnement et le mauvais raisonnement. Comment devrait-on comprendre cette expression un bon raisonnement, le bon raisonnement? Bon, il n'est pas quelque chose qui est en même temps un raisonnement et bon, tout court, simple as that. Comme une veste bleue, par exemple, et en même temps une veste est bleue. C'est pas ça. Il n'est pas non plus bon pour quelque chose ou pour quelqu'un, comme la pluie peut être bonne pour les plantes, ou comme une politique peut être bonne pour les riches. Ça peut être bon pour quelque chose, mais c'est pas ça qui fait qu'un raisonnement soit un bon raisonnement. Plutôt, il est bon en tant que raisonnement. Comme un bon couteau est bon en tant que couteau, et non pas en même temps un couteau est bon. C'est-à-dire qu'un bon raisonnement satisfait a des critères d'évaluation qui lui sont applicables en vertu du fait d'être un raisonnement. Donc, le raisonnement est une catégorie qui détermine ses propres critères d'évaluation. C'est ce que Judith Thompson a appelé « a goodness-fixing kind » dans son livre de 2008. Donc, les critères pour un bon raisonnement découlent de ce que c'est que d'être un raisonnement. tout comme les critères pour un bon couteau découlent de ce que c'est que d'être un couteau. Souvent, des catégories comme cela sont des catégories fonctionnelles. Elles ont des fonctions qui contribuent à déterminer les critères pour être bon en tant que membre de la catégorie. Donc, être un couteau, c'est en partie avoir une certaine fonction, la fonction de couper. Et c'est pour ça que les critères pour être un bon couteau consistent en le fait d'être acéré, facile à manipuler, etc. Donc, notre hypothèse, c'est que le raisonnement est comme ça. C'est une catégorie fonctionnelle. Donc, être un raisonnement, c'est en partie avoir une certaine fonction. Et la fonction détermine les critères du bon raisonnement. Et donc, il est de cette manière que la réflexion sur le bon raisonnement nous permet de mieux comprendre le raisonnement en tant que tel. Alors, beaucoup de questions que soulève cette idée. Première question, quelle est la fonction du raisonnement? Il y a beaucoup de possibilités, donc on pourrait penser que la fonction c'est pour être rationnel ou pour répondre aux raisons. Moi je vais juste affirmer ce que je pense là-dessus et je ne vais pas vous donner un argument. Donc notre idée c'est que la fonction c'est d'avoir des attitudes correctes. Et juste pour illustrer vite fait l'idée, considérez les règles du bon raisonnement théorique, donc le raisonnement avec les croyances. Ces règles-là préservent en quelque sorte la vérité. Donc si vous commencez avec les croyances vraies et vous faites un bon raisonnement théorique, vous finirez avec une croyance vraie, toutes choses étant égales par ailleurs. Et une croyance vraie, c'est une croyance correcte. Donc, suivre ces règles, c'est un moyen d'avoir des croyances correctes, étant donné que vos croyances début sont correctes. C'est ça l'idée. Deuxième question, en quel sens a-t-il cette fonction? Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que le raisonnement a une fonction d'avoir des attitudes correctes? Comme j'ai dit au début, le raisonnement, c'est une activité. Et ce que je propose, c'est que seule une activité qui vise la correction compte comme un raisonnement. Pour expliquer ça, je vous donne un cas de contraste. Donc, prenons l'activité de jouer aux échecs. En un sens, la fonction de cette activité, c'est de mettre le joueur opposant en main. Mais en même temps, vous pouvez jouer aux échecs sans essayer de faire ça, sans viser ce résultat, parce que vous pouvez jouer sans essayer de gagner. Et ça, c'est parce que la fonction de jouer aux échecs, ça vient d'une convention qui définit le jeu, qui définit les conditions pour gagner. Donc ça ne vient pas des intentions du joueur. Par contraste, dans le raisonnement, je soutiens, la fonction vient du but avec lequel le sujet entreprend l'activité de raisonnement. Donc vous ne pouvez pas raisonner sans viser la correction. Pourquoi accepter cela? Je vous donne deux raisons vite. Une raison, on a déjà vu, un sujet ne peut pas raisonner n'importe comment. Donc même si un sujet est incompétent et raisonne mal, il doit se sentir concerné par les règles du bon raisonnement. On peut pas raisonner mal exprès. Et deuxième, quand un sujet raisonne, sa pensée est structurée d'une certaine façon, elle a une direction. Et donc c'est plausible de penser que la source de cette direction est un certain résultat qui est visé dans son activité mentale. Alors, j'ai dit que le raisonnement est un moyen pour avoir des attitudes correctes, mais souvent, pour prendre un moyen, on fait un raisonnement. Donc, on a une intention d'accomplir quelque chose et une croyance que quelque chose d'autre serait un moyen pour l'accomplir, et on passe à l'intention de prendre les moyens. Bien évidemment, je ne peux pas penser au fait de viser la correction de cette manière, parce que ce serait circulaire. Donc, la question se pose, comment le raisonnement vise-t-il la correction, sinon par le raisonnement? Bon, là, c'est un peu compliqué. En général, il est possible pour un sujet de viser une fin sans représenter son comportement comme un moyen pour l'accomplir. C'est possible si le sujet manifeste une certaine sensibilité à l'égard de cette fin. Donc, moi, je propose que il est justement cela que fait un sujet qui suit la règle du modus ponens, la règle des moyens que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire, en suivant ces règles, un sujet manifeste une sensibilité, quoique imparfaite, à l'égard de la correction. Donc, elle est imparfaite parce que le sujet suit aussi parfois des mauvaises règles qui ne servent pas à atteindre la correction. Mais même dans ce cas-là, le sujet vise la correction, quoique de façon incompétente. Moi, je trouve convenable de considérer la correction comme l'objet d'une règle plus fondamentale que suit le sujet. Donc, par le fait de suivre, par exemple, la règle modus ponens, un sujet suit la règle plus fondamentale qui lui dit d'avoir des attitudes correctes. Ça, c'est convenable en partie parce qu'a priori, il existe une manière de suivre une règle qui ne présuppose pas le raisonnement. Donc, même si c'est difficile d'expliquer comment ça marche, a priori, il doit exister une manière de faire ça. Donc, ce serait le modèle dispositionnel du fait de suivre une règle que j'ai évoqué il y a quelques minutes. Mais bon, ça, c'est la théorie. Pourquoi penser que c'est vrai? Bonne question. Voici deux raisons pour croire que les règles de premier ordre, comme les règles de modus ponens, ne sont pas des fins en elles-mêmes dans le raisonnement, mais qu'elles sont plutôt des moyens, qu'elles servent à avoir des attitudes correctes. Donc, je décris deux phénomènes dans le raisonnement qui mettent en évidence ce fait. Donc, premier phénomène, c'est ce que j'appelle ici le raisonnement défaisable. C'est peut-être pas très, très élégant comme expression, mais c'est ce qu'on veut dire par « defeat » en anglais. C'est-à-dire que certaines des règles du bon raisonnement sont telles que, sous certaines conditions, il ne faut pas les suivre, plus ou moins. Donc, par exemple, peut-être il y a une règle de bon raisonnement qui nous dit que si vous croyez qu'un tel a dit que P, vous pouvez passer à la croyance que P. Donc, on a le droit d'accepter les témoignages, plus ou moins. Mais si celui qui dit que P est un menteur, par exemple, on ne suivra pas cette règle. Pourquoi? Parce qu'on voit que, dans ce cas-ci, suivre cette règle-là, ça mènerait à une attitude incorrecte. Et pour cette raison, on ne va pas la suivre dans ce cas. Deuxième expression encore moins élégante, peut-être le raisonnement en marche arrière. Broom, dans son livre, il parle du backwards reasoning. Donc, même les règles qui ne sont pas défaisables, on ne les suit pas aveuglément. Donc, mettons que vous croyez que P et que vous croyez que si P alors Q, mais qu'en réfléchissant, vous trouvez que Q ne peut pas être vrai. Dans ce cas-là, vous n'allez pas néanmoins appliquer la règle et accueillir de cette manière la croyance que P. Vous allez plutôt changer d'avis sur une des prémices, sur P ou les prémices conditionnelles. Donc, encore une fois, c'est la correction qui l'emporte, en fin de compte. Vous suivez des règles de premier ordre dans la mesure où, de votre point de vue, ça mène à des attitudes correctes. Donc, dans l'ensemble, je veux dire, notre comportement dans le raisonnement soutient l'idée selon laquelle il vise la correction. Donc, je finis avec deux objections, dernière section. Première objection, le raisonnement hypothétique. Donc, l'idée, c'est que parfois, on fait des raisonnements en partant de choses qui ne sont pas vraies et peut-être qu'on sait qu'ils ne sont pas vraies. Donc, vous pouvez vous dire, supposons que Jeanne ait pris une bière, alors il n'en resterait plus, mais dans ce cas-là, Jérémy en serait très mécontent. Donc, si Jeanne avait pris une bière, alors Jérémy serait mécontent. Et vous pouvez faire ça même si vous savez très bien que Jeanne n'a pas pris de bière. Donc, ça pourrait suggérer que cette sorte de raisonnement ne vise pas la vérité et donc ne vise pas la correction. Ce que je veux dire en réponse à cette objection, c'est que dans le raisonnement hypothétique, un sujet révise en premier lieu non pas des croyances mais des suppositions, et ça c'est une autre attitude. Donc ce n'est pas comme si, dans l'exemple que j'ai donné, ce n'est pas comme si vous croyez que Jeanne a pris une bière ou que Jérémy sera mécontent. Ce que vous faites, c'est que vous le supposez pour faire un petit raisonnement. Et c'est les croyances et non pas les suppositions qui sont correctes si et seulement si leurs contenus sont vrais. Donc il y a des questions intéressantes à poser sur la question de savoir comment ça marche, le raisonnement hypothétique, mais je ne pense pas que ça pose problème pour ce que j'ai dit. Tout cela dit, la conclusion d'un raisonnement hypothétique est typiquement une croyance, en effet. Mais c'est une croyance avec un contenu, soit une proposition de forme conditionnelle, donc dans l'exemple que j'ai donné, ce serait « si Jeanne avait fait telle chose, Jérémy en serait mécontent », ou bien, dans le cas du raisonnement par l'absurde, la conclusion, c'est une croyance avec le contenu qui est la négation de la proposition avec laquelle vous avez commencé. Dans la mesure où un raisonnement mène à une croyance, je maintiens, il vise bien la vérité. Et en fait, on ne peut pas expliquer pourquoi il se déroule comme il le fait sans penser que le but, c'est d'arriver à une croyance vraie à la fin. Donc, voilà la première objection. Deuxième objection, vous pourrez dire, mais attends, il faut tenir compte des données venant des sciences cognitives. Je n'ai pas du tout parlé des données empiriques. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs. Par exemple, il y a beaucoup d'expériences empiriques qui montre que les sujets font des erreurs systématiques dans leur raisonnement. Par exemple, l'interprétation partielle des données, la négligence des possibilités non saillantes, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et il pourrait sembler que ces données empiriques ne sont pas cohérentes avec l'idée que j'ai soutenue, parce que les tendances erronées des êtres humains dans le raisonnement ne sont pas propices à des attitudes correctes. Et en fait, dans un article très important d'il y a quelques ans, Hugo Mercier et Dan Sperber, ils ont pris des données empiriques de cette sorte pour soutenir une théorie selon laquelle la fonction du raisonnement relève de l'interaction sociale, de la communication et de la persuasion, et pas du tout de la vérité, la correction ou des trucs comme ça. En réponse, pardon, je devrais parler plus correctement, excusez-moi. En réponse, je pense qu'il faut distinguer trois questions, et une fois qu'on a distingué ces questions, je pense qu'on peut être tous d'accord, plus ou moins. Première question est celle de savoir quelle est la nature du raisonnement en tant que tel. Donc, qu'est-ce que c'est que le raisonnement en tant que tel? Et ça, c'est la question qui est le sujet de mon exposé. Deuxième question, comment se comportent les êtres humains dans le raisonnement? Quelles fautes commettent-ils, par exemple? Et troisième question, comment ce comportement est-il produit par nos systèmes cognitifs au niveau subpersonnel? Et ça, c'est une troisième question. Et bon, bien sûr, il y a des liens intéressants entre ces questions, mais il faut les distinguer quand même. Les données empiriques portent souvent plus sur la deuxième et la troisième de ces questions que sur la première. Et à mon avis, la théorie de Mercier-Sperber peut décrire la fonction de certains mécanismes cognitifs humains qui soutiennent le raisonnement, sans pour autant porter sur la fonction du raisonnement en tant que tel. Et en fait, je pense que la théorie devrait être interprétée de cette façon. Parce qu'en principe, il pourrait exister une espèce de sujet qui raisonne, mais qui ont une autre mode d'interaction sociale que nous, et qui ne sont pas susceptibles à commettre les mêmes erreurs que nous. Et cette possibilité ne devrait pas être exclue par notre théorie du raisonnement. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait, la théorie de Mercier-Sperber, ça parle d'une chose légèrement différente de la question que j'ai essayé de discuter ici. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Connor, et merci d'avoir fait l'effort de parler en français, parce que même si ton français est tout à fait correct, c'était quand même du travail supplémentaire que ça t'a occasionné, donc merci encore.
Me centrer sur le premier, en commençant par dire que globalement, je suis plutôt acquis à ce que vient de dire Connor, ce qui rend ma tâche encore plus difficile. Donc j'ai essayé de tendre un peu le désaccord en essayant de montrer, en me demandant en quoi cette notion de correction est vraiment utile. Mon angle d'approche pour présenter mes deux points, c'était McHugh, inutile et incertain. Ce qui est un petit peu en toute amitié.
C'est juste.
Donc la partie inutile, c'était pour se demander si l'introduction de cette notion de correction apporte. Et le côté incertain, c'est la partie que je ne vais pas développer. Je mentionnerai simplement l'autre pierre d'achoppement qu'on peut avoir sur laquelle donc j'ai un doute. Donc globalement, il me paraît assez difficile de ne pas abonder dans le sens de l'exposé de Connor si la thèse qu'il soutient est la suivante. Donc le raisonnement consiste en une révision des attitudes, c'est-à-dire des intentions, des croyances, éventuellement d'autres, visant la correction, fittingness. Et donc, selon Connor, il y a une propriété normative du raisonnement qui n'est pas le bien en général, qui n'est pas non plus le fait d'être bon pour quelque chose, mais qui est le bien en tant que raisonnement. Et c'est cette propriété d'être bon en tant que raisonnement qui constitue donc la correction du raisonnement. Et mon souci, tout simplement, en fait, j'ai l'impression qu'il y a ici une espèce de déplacement de l'évaluation de l'inférence vers la conclusion de l'inférence, ou pour le dire en termes médiévaux, de la conséquence vers le conséquent, il me semble. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est utile de procéder à ce déplacement ? Est-ce que la notion de correction de la croyance à laquelle on veut aboutir en raisonnant, ou de l'intention à laquelle on va aboutir, eh bien, est-ce que cette notion est utile dans la mesure où il est à peu près établi que la correction d'un raisonnement, c'est sa validité ? En particulier sa validité logique. Donc pour une fois, on a un critère tout à fait, un critère normatif, très explicite, très clair, ce qui n'est pas le cas en éthique, par exemple, où on ne sait pas exactement quel est ce bon éthique, quel est ce bien éthique. Pour ce qui est du raisonnement, on sait qu'il s'agit de la validité. Donc pourquoi en changer ? Pourquoi parler de correction ? Alors peut-être pour la même raison qu'il est erroné d'opposer logique et éthique, comme je viens de le faire, puisque en éthique aussi, on raisonne. La logique n'a pas le monopole des raisonnements. Donc peut-être que le terme correction, le concept de correction, permettrait d'englober justement tout type de raisonnement, les raisonnements pratiques, les raisonnements théoriques, les raisonnements sur les croyances et sur les intentions. Mais il me semble qu'on peut dire que dans tous les cas, dans tout type de raisonnement, ce qu'on vise finalement, c'est la cohérence des croyances, des intentions, éventuellement d'autres attitudes qu'on prend pour objet. On raisonne pour se mettre dans des états appropriés, des états corrects, certes, mais peut-être qu'on peut dire plus précisément que ce qu'on cherche à faire lorsqu'on révise ses croyances, c'est d'accroître son stock d'informations pertinentes tout en se préservant des contradictions. Et je pense qu'en disant ça, j'énonce moins une thèse que je définis ce que c'est que la révision, la fixation et la révision des croyances. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose de particulièrement novateur, c'est ce que disent Harman, Bloom, que le but du raisonnement, c'est l'obtention de croyances et d'intentions cohérentes. Donc je me demande dans quelle mesure l'idée de correction n'est pas une sorte de pseudo-concept ou d'étiquette qui tendrait plutôt à obscurcir finalement qu'à clarifier ce qu'est la visée d'un raisonnement, sa manière d'être un bon raisonnement. Et c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'en anglais, fittingness fait une impression différente? Peut-être que dans l'idée de fittingness, il y a l'idée d'être approprié à quelque chose dont on perdrait le sens en français. Est-ce qu'il n'y a pas une notion évolutionniste derrière dans to fit qu'on aurait moins dans la correction? Je ne sais pas. En tout cas, une piste intéressante pour la correction qui a été énoncée dans l'exposé, c'est que ça permet d'expliquer que le raisonnement repose sur une sensibilité à la correction. Et je pense que ça, c'est une solution élégante pour résoudre en termes dispositionnels les différents paradoxes que tu as mentionnés de régression ou de cercle, de circularité. Faire un raisonnement, un bon raisonnement ou un mauvais raisonnement, c'est être sensible de manière plus ou moins fine, plus ou moins pertinente, erronée, juste, à quelque chose comme une correction. C'est une solution élégante parce que c'est un vrai problème qui est chez Harman, chez Broom, de savoir comment ne pas tomber dans une circularité, une régression. Par exemple, chez Broom, toute intention porte en partie sur elle-même. Donc on a une théorie un peu bizarre où on a besoin de dire qu'avoir l'intention de faire quelque chose, c'est avoir l'intention d'avoir cette intention de faire quelque chose. Donc là, je pense que l'idée de sensibilité à la correction est intéressante, mais quelle est cette sensibilité qui n'est pas un raisonnement, mais qui nous permet de raisonner? Qu'est-ce que c'est que cette propriété que nous avons, cette disposition? Est-ce que ce n'est pas une explication de l'obscur par le plus obscur? En tout cas, ça me parle relativement peu. Et je pense que ce qu'on perd aussi en parlant de correction, c'est l'idée d'un conflit entre propositions qu'on a dans l'idée de la recherche d'une cohérence. Donc, par exemple, dans le backward reasoning, c'est-à-dire le fait qu'on va inférer une conclusion et puis finalement, on s'abstient d'affirmer cette conclusion et on va finalement remonter aux prémices et, par exemple, nier une prémisse. Eh bien, dans ce processus, on a très clairement l'idée qu'il y a un conflit entre des croyances qui sont contradictoires. Un dilemme et la nécessité de raisonner sur ce dilemme. Par exemple, je crois que A implique Q et j'en viens par un processus de raisonnement à croire que Q. Et par ailleurs, je crois aussi que B et B implique non Q. Et j'en viens aussi, ou je devrais en venir aussi à croire que non Q. Et le problème sur lequel je dois raisonner, c'est alors celui de la contradiction entre Q et non Q. Comment vais-je faire pour le résoudre? Et je ne pense pas que ce soit une question de vérité, de Q ou de non Q, ni de correction, mais véritablement une question de cohérence. Alors effectivement, si Q et non Q ne peuvent pas aller ensemble, c'est parce que l'une des deux doit être vraie et l'autre fausse. Donc effectivement, la vérité est au cœur de la correction du raisonnement, mais est-ce qu'elle l'est d'une manière première ou d'une manière dérivée? Je pense qu'il y a une espèce d'entre-définition des notions et le fait de dire que ce qui est central, ce qui est premier, c'est la vérité ou la correction, n'est pas quelque chose qui est particulièrement fructueux. Peut-être que, justement, un critère qui montre l'utilité de la notion de correction, c'est qu'elle permettrait, et c'est un des critères que tu as avancé, de distinguer ce qui est un véritable raisonnement, ce qui est un bon raisonnement, et ce qui est un mauvais raisonnement, de ce qui n'est pas du tout un raisonnement. Et donc là, j'ai cherché un exemple de ce que tu dis ne pas être possible, c'est-à-dire le fait que si on a cette sensibilité à la correction, eh bien on ne va pas déduire n'importe quoi sous prétexte que le raisonnement nous y pousserait. Donc on va, par exemple, si une intention conduit à un cours d'action désastreux, eh bien on va s'abstenir de cette conséquence désastreuse. Alors l'exemple, le contre-exemple que je suggère, c'est celui du mensonge kantien. Donc voilà, j'ai mes prémices qui sont l'interdiction du mensonge en toute situation. Et puis j'ai cet ami qui vient me voir, qui me demande de mentir, et je vais avoir l'intention de livrer mon ami parce que cela résulte du raisonnement, parce que c'est quelque chose qui m'est imposé normativement, de manière nécessaire, parce que donc j'aurais privilégié la normativité de l'inférence sur celle de la conclusion, qui était simplement subordonné à ma règle, en l'occurrence pratique. Donc pour résumer le point inutilité de Conor McHugh, je dirais que lorsque tu suggères que finalement il pourrait être utile d'accompagner toutes nos inférences par la maxime « get fitting attitude », donc voilà, ce qu'on vise, c'est des attitudes qui sont correctes. Eh bien, j'ai envie de répondre qu'au contraire, ce serait totalement inutile dans la mesure où le raisonnement n'a pas besoin qu'on lui dise, eh bien, en plus, il s'ajoute une maxime qui est « et que cela soit bon, amen, faisons comme ceci », une petite tape d'encouragement dans le dos du raisonnement qui n'apporte rien aux exigences de rationalité qui seraient donc d'un autre ordre. Alors, je mentionne simplement le deuxième point que je ne développe pas, qui est la partie incertitude. Si je retourne ma veste en disant « maintenant, je considère que donc je vais me contredire moi-même, que la validité d'un raisonnement ne repose pas sur des critères uniquement logiques, par exemple, quand je fais des hypothèses, quand je fais des inductions, quand je fais tout un type de raisonnement d'ordre analogique, conditionnel, probabiliste, etc., eh bien, je peux utiliser des règles de raisonnement qui ne mènent pas la plupart du temps, ou qui ne mènent pas toujours, qui ne mènent pas de manière relativement bien garantie à des attitudes correctes, et pourtant que je ne vais pas abandonner, par exemple, des maximes d'induction, des maximes qui ne préservent pas la vérité, et pourtant qui sont constitutifs de ce que c'est que raisonner. Donc en gros, l'idée c'est de dire que il me semble que dans la littérature contemporaine épistémologique sur le raisonnement, on a tendance à privilégier le modèle déductif du raisonnement nécessaire et que ça peut conduire à une approche du type qui est celle que tu as donnée et que c'est laisser sous silence la majeure partie de ce que c'est que ce en quoi consiste véritablement raisonner.
Merci. Merci beaucoup, c'est génial. Je ne vais pas pouvoir répondre à tous les points que tu as soulevés là, mais c'est très intéressant et utile. Je dis deux, trois choses vite. C'est vrai que j'ai affirmé que la fonction du raisonnement, c'est le fait d'avoir des attitudes correctes. Je pense que pour la plupart, les arguments de ce papier, en fait, ne dépendent pas de ça. Donc, on pourrait considérer que la fonction soit, par exemple, la rationalité est je pense que ce ne serait pas Kant la direction de ce papier. Donc, ce que je veux vraiment soutenir aujourd'hui, c'est l'idée que le raisonnement est une catégorie fonctionnelle et qu'il y a ce lien entre la nature du raisonnement et les critères pour le faire bien. Donc, ça, c'est une chose. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il y a l'idée que le raisonnement vise la cohérence, la rationalité. Ça, je vois très bien que c'est une idée intéressante et qui a priori a beaucoup de plausibilité. Deuxième chose en réponse, si on a la notion de validité au début, tu posais la question pourquoi, qu'est-ce que ça ajoute de parler de la correction, pourquoi pas juste parler des inférences valides, c'était un peu ça le truc au début. Mais ouais, en fait, tu m'as donné un peu la réponse que j'aurais fait, c'est parce que je veux donner une théorie générale du raisonnement, donc qui comprend non seulement le raisonnement théorique, mais aussi le raisonnement pratique. Et je veux faire... je pense que la validité, ça c'est une propriété d'un argument, c'est-à-dire d'une sorte d'objet abstrait, une structure de proposition, une proposition qui entretiennent certaines relations entre elles, alors que le bon raisonnement, en le sens dans lequel j'utilise cette expression ici, c'est une propriété de quelque chose que fait un sujet. Donc c'est sûr qu'il y a des liens entre ces deux choses. Mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre ce que c'est que de raisonner bien, de faire cette chose bien, seulement en parlant des propriétés de certains objets abstraits, bien que on peut comprendre certains aspects du bon raisonnement en faisant les logiques formelles, par exemple, ou des choses qui vise seulement les contenus, les propositions et les relations entre ces choses-là. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. Oui, en fait, par exemple, les règles du raisonnement inductif. C'est pour ça que j'ai un peu triché. J'ai dit à un moment donné qu'il préserve la vérité. Toutes choses étant égales par ailleurs, et ça c'est ma manière de ne pas parler de l'induction, parce que là je pense que quand l'induction nous mène à la fausseté, c'est parce que les choses ne sont pas égales par ailleurs. Mais voilà, bien sûr j'ai rien dit là-dessus.